Priez Saint Joseph, qui est le patron de la bonne mort. Nous allons parler ce soir des fins dernières. Et c'est assez curieux que, bon, on parle beaucoup des fins dernières, et peut-être pas assez de la fin dernière. Et certainement que si nous avions une conscience beaucoup plus vive de la fin dernière, les fins dernières passeraient beaucoup mieux. Ce que veut dire par là? Eh bien, ces réalités qui ont été spécialement prêchées durant la contre-réforme, ça ne veut pas dire qu'on n'y pensait pas avant, hein, il suffit de lire Saint Bernard pour voir que les fins dernières, c'était important. Mais quand on voit les grands cisterciens du XIe siècle, les prédicateurs du XIIIe, oh certes, ils prêchaient les fins dernières, mais ils avaient une idée de la contemplation qui était très haute et qui leur permettait justement, parce qu'ils avaient un très grand réalisme sur la fin dernière qui est Dieu, Dieu à connaître, Dieu à aimer, Dieu à servir, Dieu à glorifier, alors ensuite ils pouvaient regarder toutes ces réalités qui sont la mort, le jugement particulier, le ciel, l'enfer, le purgatoire. Voilà. Et on voit une prolongation de cet esprit des contemplatifs du XIe, XIIIe siècle et de tous ceux qui ont été avant. Bien sûr, je pense à ceux-là parce qu'ils ont une influence encore assez directe sur nous. On trouve une prolongation de cet esprit donc chez le Père Emmanuel. Je ne sais pas si on vous l'a conseillé dans les attributs de Dieu, les perfections, la Trinité, ce petit opuscule-là, de la présence de Dieu. Un petit chef-d'œuvre, petit chef-d'œuvre. Il paraît qu'il a écrit d'une seule coulée quand il était en retraite dans un monastère. Je vous lis la conclusion de la 11e considération. Donc, présence de Dieu, c'est 15 considérations sur Dieu. Voilà. Une spiritualité dilatante. Pas rétrécie, pas mesquine, pas introspectante, pas... Tout voir sous rationé eternitatis et deus eterni. Voilà. Alors, c'est 15 considérations. On donne quelques-unes, là. Il commence par quoi? Il commence d'abord par une invocation à la Sainte Vierge Marie, que nous ferons peut-être dans l'instruction sur la Vierge. Premièrement, vous voulez des sujets de méditation, hein, des sujets d'oraison, de contemplation. Première considération, Dieu est. Il y a beaucoup parmi nous qui font des petites méditations sur Dieu est. Ah, il tire les conséquences. Et c'est très simple, à chaque fois, il y a quelques vues contemplatives, et puis après, une pratique, il donne une pratique. Dieu est son bien, son propre bien. À quoi ça nous intéresse tout ça? Il le développe très bien. Dieu est notre bien. Ah. Dieu est notre premier principe et notre fin dernière. Quatrième qui éclaire celle qu'on va faire aujourd'hui. Quatrième considération. Premier principe et fin dernière. Dieu est présent toujours et partout. Et il tire les conséquences extrêmement pratiques. Dieu se plaît avec les âmes. Ensuite, Dieu, la création, la Sainte Trinité, vous avez vu hier. Ce que Dieu fait en lui-même. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le bon Dieu, en ce moment? Qu'est-ce que vous faites? Quelle heure est-il? Ce que Dieu a fait pour nous. La 11e qui va nous intéresser. Ce que Dieu fait au ciel, au purgatoire et en enfer. Ah, il fait quelque chose? Oui, il fait quelque chose. Ce que Dieu fait dans l'Église. Ah, très bien ça. Ce que Dieu fait en ce moment. La réponse. Si vous voulez la réponse, vous allez garder la 13e considération. Qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? 14e, la soif de Dieu. Et 15e, ayons soif de Dieu. Alors, ce soir, surtout dans le cadre de la 4e et de la 11e. Dieu est notre premier principe, notre dernière fin. Ça a dû être développé, je pense, quand même, dimanche. C'est intéressant ce qu'il dit en conclusion, la pratique qu'il propose. Il nous faut demander au Saint-Esprit l'abondance de ses dons précieux, mais spécialement du don de piété. Il mettra en nous un amour filial pour le bon Dieu. Et, comme fruit de cet amour, nous lui dirons avec une affection croissante et une attention tous les jours renouvelée, « Pater noster quies in celis ». C'est tout? Oui, c'est tout. C'est le Fils unique qui nous a enseigné cette divine prière. Et comme dit saint Benoît, quoi de plus doux pour nous que cette voix du Seigneur? Exemple donc de pratique qu'il tire de cette 4e considération. Alors lisons surtout la conclusion de la 11e pour notre sujet de ce soir. Pratique donc de la 11e. On verra le reste, la contemplation qu'il propose au fur et à mesure du sujet de ce soir. En conclusion de ces, donc deuxième partie de la 11e considération, en conclusion donc de ce que Dieu fait au ciel, au purgatoire, en enfer, il faudra veiller à nous rendre attentifs à ce que Dieu fait au ciel, à ce qu'il fait au purgatoire et jusque dans les enfers. Bien souvent, nous disons à Dieu, notre Père qui es aux cieux. Ce dernier mot nous sera d'un grand secours et nous rappellera l'éternelle félicité des saints, la communion des saints, la grande fête du ciel. Souvent aussi, nous disons le De Profundis, que ce soit avec une vue compatissante de l'état des âmes du purgatoire. Enfin, il nous sera bon de jeter quelquefois nos regards jusqu'en enfer. Il dit quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois. C'est utile, on verra pourquoi. Dieu y est. Dieu y est, en enfer, et sa personne y est adorable. Adorable y est aussi sa justice. Tant qu'elle punit, là. Parce qu'il faut savoir si la justice de Dieu récompense. La justice est aussi au ciel et au purgatoire. Suivant une pensée de saint Bernard, il faut descendre en enfer maintenant que nous sommes vivants, afin de n'y pas descendre quand nous serons morts. Voilà. Donc on va commencer maintenant à entrer dans notre sujet, que vous trouverez souvent cette parole dans les livres sur la bonne mort. Bien sûr, j'ai invoqué saint Ignace et saint Alphonse, parce que saint Alphonse a été vraiment le grand spécialiste des vérités éternelles sur la mort, la purgatoire, l'enfer, etc. Des considérations pratiques, souvent très intéressantes du point de vue aussi... beaucoup d'anecdotes, c'est très vivant avec saint Alphonse. Que dit la Sainte Écriture ? Pense à tes fins dernières et tu ne pécheras pas. Et d'abord, la première fin dernière, si nous vivions plus en présence de Dieu, sous le regard de Dieu, eh bien, on pécherait moins, c'est vrai. Alors, il faut du temps pour progresser dans cet exercice de la présence de Dieu. Peut-être avez-vous lu les écrits de cet intéressant, c'est beau, et puis c'est surtout pratique, du frère Laurent de la Résurrection, sur la présence de Dieu. C'est un frère laid, un frère convert, carme du XVIIe ou XVIIIe siècle. Je pensais à Dieu, il était frère cuisinier, entre autres, je pensais à Dieu en tournant ma petite omelette dans la cuisine. C'est intéressant pour les dames, penser à Dieu en tournant ma petite omelette dans la cuisine. Et il explique qu'il a fallu des années pour grandir dans cet exercice de la présence de Dieu. N'oublions pas, quand nous formons une résolution, quand nous voulons nous arrêter à une vérité divine qui nous travaille, dont nous voulons vraiment goûter, expérimenter la bonté, la douceur, il y a un effort de l'homme pour suivre la grâce, mais il y a la grâce qui suscite, qui attire, qui... Hein, bien voir, c'est, il y a l'effort de l'homme, et il y a bon, ce que vous avez fait, là, la joie, la grâce, qui attire. De temps en temps, mon Dieu fait sentir la difficulté de l'effort. Parfois, il porte. Et il y a les deux moments. Donc, pense et réfléchis au fin dernier, tu ne pêcheras pas. Vivre en présence de Dieu, la première chose. En présence de Dieu, la présence de Dieu. Être attentif à la présence de Dieu. Cette présence, c'est une présence aimante qui excite notre amour. Vivre pour apprendre à bien mourir. Les païens déjà le disaient. Je ne sais plus si c'est Platon ou un autre. Philosopher, c'est apprendre à bien mourir. Bien vivre pour bien mourir. Déjà des païens qui disaient ça. Pensez de la mort. Qu'un jour, la mort, vous voyez, il y a une façon païenne qui peut être d'y penser, un peu philosophique ou païenne, bon, séparation du corps et de l'âme. Pensons toujours que cette mort est voulue par un Dieu créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, suite du péché originel, vous le savez. Et donc cette mort, si nous voulons qu'elle soit habitée par Dieu, ça dépend de notre vie, maintenant. On disait souvent à Saint-Jean-Jésus, ne craignez pas, je vais au Dieu d'amour avec lequel j'ai vécu toute ma vie, qu'est-ce que vous voulez que je craigne? Ou cet autre qui, c'est un père du désert, je crois, vous ne craignez pas la mort? Ne crains pas la mort. Le Seigneur a dit que pour ceux qui jugeraient jamais, je me suis forcé toute ma vie de ne jamais juger, eh bien je sais que maintenant je ne serai pas jugé, parce que je n'ai jamais jugé personne. je suis forcé de ne jamais juger. Enfin, au sens où on l'entend, hein, distinguons. Il y a des jugements qu'il faut savoir faire, mais on entend le jugement moral sur les intentions. Jugement qu'on n'a pas, dont on n'a pas la responsabilité, dont on n'a pas le, ni la justesse, ni le devoir d'État, ni la grâce pour juger, évidemment. N'enlevons pas notre intelligence, son acte, un de ses actes, l'acte, sinon l'acte principal du jugement intellectuel. C'est pas ça dont on parle. Du jugement moral sur les intentions, sur la valeur, sur ce que... C'est surtout ça, ce jugement-là. Juger les autres, ce qu'ils ont fait, pas seulement sur la matérialité extérieure des actes qui sont commis. Je ne crains pas parce que je n'ai pas jugé. Il mourrait dans une très grande paix. Indication déjà pour notre mort. Nous mourrons comme nous aurons vécu. L'arbre tombe du côté où il a penché. Toute sa vie, on a, et même au dernier moment de la vie, on est revenu à Dieu toujours plus intensément, par un perpétuel retour vers Dieu. Il n'y a pas de crainte à avoir pour la mort. Alors bien sûr qu'il y aura peut-être les souffrances du corps. Il y a Saint Bernard, il pleurait un frère qui était mort. Vous pleurez, vous savez, pour... Oui, je sais. Mais il y a la séparation de l'amitié. Voilà. Ce frère ne sera plus là. Et pourtant, Saint Bernard, bon. Donc il y a la séparation. Les biens du corps, les biens de l'âme. Le juste qui désire le ciel, souvent, bah, désire quitter la prison de son corps, pas au sens des platoniciens ou néoplatoniciens, mais c'est la dernière, on disait, là on lisait vendredi encore, un chasseur qui rencontrait dans un bois, dans une forêt, pendant une chasse, un ermite qui était tout couvert de lèpre, etc., et qui avait l'air tout joyeux, tout resplendissant. Et comment on sait que vous êtes tout heureux comme ça, tout ? Il disait, mon seul désir, c'est d'aller voir Dieu. Et la dernière enveloppe opaque qui m'empêche de le voir, c'est ce corps. Alors je suis tout content qu'il se délabre et il se ruine pour aller voir Dieu. On n'est pas là, mais bon. Ça, c'est quand même ce à quoi il faudrait tendre doucement. Alors bien sûr, dans les moments difficiles aussi, retirez-moi de la terre pour que je n'ai pas à lutter ou à porter ces croix terribles ou ces combats qu'on a à faire. Confondons pas le désir du ciel et peut-être des fois une forme de... Bah, si on veut la gloire, il faut la croix. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des croix qu'on préférait aller au ciel un peu plus vite ou aller au-delà. Non. C'est maintenant qu'on la mérite par notre croix ou ce qui est difficile dans notre vie. Les actes d'amour que nous allons produire à cette occasion-là. Donc, souhaiter cette mort chrétienne. Mais une vie chrétienne, l'épanouissement normal d'une vie chrétienne, c'est de vouloir aller à la rencontre du Christ. On raconte dans la vie d'un auteur de théologie morale qu'on appelle le Père Chanson. Le jour où il a appris qu'il était mort, qu'il allait mourir, enfin qu'il était assaillé, il était condamné, que dans quelques jours il allait mourir, il a invité ses amis pour boire le champagne. Ah bon ? Bah oui. Il était content. C'est chrétien. Ah bon. Avant peut-être qu'il aille dans l'agonie et le coma, je ne sais pas quoi. Quel réflexe chrétien. Un certain humour aussi, sans doute. Bon. Eh oui. Donc, tendons à cela, mais nous inquiétons pas trop. C'est-à-dire, inquiétons-nous un seul jour. Il n'y a qu'un seul jour dans l'année, le jour d'aujourd'hui, ou la semaine qui vient, pas plus. Ou comme disait Saint Hervé de Jésus, souffrir une minute à la fois. C'est pas mal, ça, souffrir une minute à la fois. Vivre une minute à la fois. Alors, les problèmes du passé, ce qui peut venir à l'avenir, et là. Plus le présent. Bon, non. Padre Pio, hein, mon passé, votre miséricorde, mon avenir, à votre providence, présent, à votre amour. Parfait. Puissions-nous avoir ces dispositions-là, vivre au présent le plus possible. Plusieurs auteurs du XXe siècle et avant le XXe siècle, bien sûr, ont dit qu'il y avait une grande, ça peut être un grand, Saint François de Sales notamment, une grande manière de nous sanctifier qu'apprendre à vivre au moment présent. C'est dans le moment présent que Dieu m'attend. C'est maintenant qu'il m'attend. Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il engendre son Fils en moi. C'est maintenant qu'il est au ciel. C'est maintenant qu'il est au Saint-Sacrement. C'est maintenant. Ce n'est pas hier ou demain. C'est maintenant. C'est maintenant dans la foi. Le maintenant vécu dans la foi, l'espérance, la charité. Voilà ce qui nous prépare bien à la mort. Maintenant. Donc, maintenant. C'est très mystérieux et très beau quand on étudie la réalité du temps. Et puis le présent, qu'est-ce que c'est qu'un instant ? C'est très mystérieux, hein, très, c'est sûr. La réalité de l'instant, le moment, l'instant. Mais au concret, Eh bien, c'est ce que nous sommes avec notre corps, notre âme, ces états actuels successifs. C'est que des états actuels, c'est intéressant. Que des états actuels, notre vie. Des états actuels, des instants présents, mais des moments successifs, mais aussi des autres. Alors que dans ces moments, il y a de plus en plus de foi, plus en plus d'espérance, plus en plus de charité, plus en plus de componction, de contrition, le travail des vertus. C'est maintenant que Dieu m'attend, maintenant. La mort, elle n'est pas pour demain. C'est maintenant. Et vous voyez, on voit très bien, c'est assez cocasse, remarquable, ceux qui se préparent le mieux à la mort, souvent, dans la mesure où, bien sûr, ils acceptent bon, ce qui vient, c'est très souvent les malades. Les vrais malades chrétiens, c'est ceux qui sont les mieux préparés à la mort. Parce qu'ils ont tellement l'habitude, si vous voulez, de sentir le poids du corps, le poids des maladies, ce que le corps fait dans l'âme, ce que l'âme fait dans le corps, que quand ils vivent bien leur maladie, c'est les plus entraînés à la mort. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre chose qui peut nous entraîner à la mort. Hein. Car on peut avoir des épreuves d'âme, on peut avoir un tas de choses, des séparations, des douleurs, des déchirements, des blessures dans l'âme. Mais certainement que les malades font la meilleure préparation à la mort qui soit. Parce qu'ils sont comme entraînés, eh bien, à la rencontre, à rebondir vers Dieu, à faire les actes de hauteur, les actes, on est anagogique là, les actes de hauteur, rebondir vers Dieu. Quand l'exil est trop beau, on en fait son paradis. Poète, je crois qu'il dit ça. Quand l'exil est trop beau, on en fait, est trop confortable, on en fait son paradis. Voilà. Quand l'exil, ce n'est pas la vie de château, pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour les épreuves de famille, de santé, que sais-je, on est obligé. Le Père Faber, les croix nous lancent vers le ciel. Donc, vivre au présent. Meilleure préparation à la mort. Pas la peine de... Alors vous trouverez dans des livres, ça peut être intéressant pour certains tempéraments, pour peu qu'ils n'aient pas une imagination trop vive et trop... Les compositions de lieux, vous êtes à... Tous les soirs, il paraît Saint-Vincent de Paul, Saint-Pierre d'Alcantara, ou Saint-Louis-Marie de Montfort, lui, il est carrément visité les lieux où il y a les morts, pour voir ce que c'est. Ah, tu t'attaches à ça ? Saint-François, Borgia... s'est converti en voyant, c'est plus qu'une infante, ou son époux, je ne sais plus où, la reine d'Espagne. Grande beauté, une grande beauté. À la mort, c'est ça. Ah, c'est réaliste, c'est sûr. Bon. Je ne sais pas si vous avez, bon, dans votre famille, indépendamment de l'expérience de la douleur, de la séparation, pour ceux qui douteraient de l'immortalité de l'âme, il y en a, malheureusement. Qu'ils ont une âme ou qu'ils ont une pensée. Un être que vous avez vu vivant et que vous voyez sur son lit de mort. Indépendamment de la question de la peine, hein, de la peine qu'on peut avoir, mais l'expérience simplement avec l'intelligence, ce corps qui ne bouge plus, qui n'a plus de vie, qui n'a plus, est-ce qu'il était avant ? Ben là, vous comprenez que l'âme, c'est vraiment quelque chose de plus que le corps. Ah, vraiment, là... Ou alors vous êtes complètement aveugle, quoi. Mais c'est évident, vous voyez, cette personne, il y a 2 jours, il y a 1 jour... plus de vie. Ah, où est son âme ? Elle n'est plus là. Oui, d'accord, il y a encore les traits qui vont se décomposer, etc. Mais il n'y a plus l'âme. L'âme, c'est vraiment autre chose. Alors, c'est sûr, ça peut être intéressant, même pour l'aspect spécial du péché. Bah, c'est sûr que si on sait que la mort peut toujours être au tournant, sans vivre dans les perpétuelles angoisses non plus, bah, ça peut peut-être faire éviter... bon, si je meurs dans le péché mortel, bon... On n'y tient pas trop, surtout s'il y a l'enfer qui est en dessous. D'accord ? Ça peut être utile. Saint Ignace dit qu'il faut penser à l'enfer, notamment, eh bien, quand l'amour de Dieu, les perfections divines, la passion du Christ ne nous font plus rien, pour se détacher du péché, c'est très utile de penser à la mort et l'enfer. Très utile. Voilà. Mais en dehors de ça, vivons en présence de Dieu. Et plus nous vivons en présence de Dieu, plus le bon Dieu eh bien, nous apprivoisera à être séparés du corps, du bien-être, des attaches du cœur, enfin, tout ce dont on peut avoir à se séparer pour être totalement à Dieu. Voilà, pour que Dieu soit tout et le reste rien, ou presque rien. Alors, à l'heure de la mort, vous le savez ensuite, hein, qu'il y a le jugement particulier. Et là, nous verrons avec cette séparation, nous serons dans l'état où nous aurons été trouvés. C'est très mystérieux. Donc, état de grâce, eh bien, purgatoire ou ciel. État de séparation de Dieu, on ne peut plus progresser, on ne peut plus changer d'état. Parce que ce qui est l'occasion du changement de l'âme, c'est le corps. Le corps ne donne plus occasion à l'âme de changer. L'âme est fixée irrémédiablement dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a choisi. Mais comment ça se fait ? C'est comme ça, c'est quasi ontologique. L'âme ne peut plus. Elle voit d'une façon aiguë le monde invisible. Alors, qu'est-ce qui se présente ? J'ai un jugement particulier. On peut penser que nous verrons au moins l'humanité de notre Seigneur. Où nous verrons, où nous saurons quelque chose, et notamment le jugement, ce que nous sommes devant Dieu, nous le verrons avec, il n'y aura plus l'opacité du corps, l'opacité des opérations sensibles, de l'imagination, tout ça. Nous verrons alors que le monde invisible est infiniment plus important que le monde visible. Le monde visible, c'est vraiment une toute petite partie. Quand l'Écriture dit au cours d'un combat des anges, ils sont plus nombreux que nous, qu'en parlant des anges, etc., le monde invisible est d'une richesse, d'une grandeur, d'une beauté, d'une puissance, d'une étendue spirituelle bien plus grande que tout l'univers visible. Alors ne craignez pas parce que soi-disant vous êtes chrétien que vous n'avez plus les pieds sur terre. Pieds sur terre, tête au ciel, mais en tout cas la vraie vie c'est l'invisible. C'est l'invisible qui est important. C'est un beau livre là. Il n'y en a qu'un malheureusement, vous allez peut-être vous l'arracher si vous connaissiez ce qu'il y a dedans. Contempler l'invisible, don de l'âme, petite merveille, dans la même spiritualité que le Père Emmanuel. Voilà. Devant ces grandes vérités, Dieu est. Notre vie, c'est connaître et aimer Dieu, c'est l'essentiel de notre vie. C'est le repos de notre intelligence, c'est le repos de notre volonté, c'est l'unité de notre personne, c'est l'unité des personnes avec les autres personnes qui vivent ici-bas, c'est l'unité de l'Église, c'est tout ça. Alors on a une vision aiguë, le monde de l'intelligence, le monde spirituel, l'âme séparée du corps, elle voit, elle sait, il n'y a plus aucun doute, impossible. Alors vous savez, ce qui s'offre à notre vie, ultimement, ça rejoint la fin dernière ultime, c'est le ciel, la Trinité, la communion à la Trinité, la communion des saints, la communion des anges ou l'enfer. Mais c'est quasiment obligé que ce soit ça de l'autre côté, c'est l'un ou l'autre. Alors il y aura le purgatoire, on en parlera. La fin ultime, notre état ultime actuel, c'est où le ciel, l'enfer, pour l'éternité. Alors ça, il y a des saints qui, même ont le petit François de Fatima, notamment, et Jacinthe de Fatima, l'éternité, toujours heureux ou toujours malheureux. Ça fera beaucoup frapper certaines âmes, ça, cette éternité, toujours, le toujours. Un toujours éternellement bienheureux ou un toujours éternellement malheureux. Quand on pense ça, c'est sûr que ça offre des profondeurs. Ce toujours, c'est justement l'éternité de Dieu, l'éternité des choses, notre âme. Nous ne sommes pas éternels en arrière, mais nous sommes éternels en avant. Nous avons commencé, nous. Bon, Dieu n'a jamais commencé et finira jamais. Nous avons commencé et nous finirons jamais. Dans une vie perpétuelle. Alors, éternellement heureuse, éternellement malheureuse. Là aussi, ça serait permanent. Si vous avez prié, si vous avez aimé, si vous avez été dans les relations divines qui fait que le Père nous pousse toujours vers Jésus, que Jésus nous pousse toujours vers son Père, que le Père et le Fils veulent que nous existions, que notre vie intime soit la même que leur, que nous vivions le cœur de Dieu qu'est le Saint-Esprit, il n'y a pas à craindre, pas à craindre, aucune raison de craindre. Nous avons fait de la vie même de Dieu notre vie, il n'y a pas à craindre, il n'y a aucune raison. Alors, il y a des saints qui ont quand même craint, oui, oui. Ils craignaient en Dieu, ils craignaient la vision de l'amour de Dieu, alors c'est craindre l'abîme, l'autre côté de l'abîme. On dit par exemple chez Saint Louis Bertrand, il passait des nuits à contempler les choses éternelles. Alors, il était plein de, je crois qu'on le met dans le Père Gardet, je ne sais plus où il en traite ça, il me semble que c'est dans le don de crainte justement. Il donne comme exemple les 7 dons du Saint-Esprit chez les saints dominicains. Et Saint Louis Bertrand, donc, il passait ses nuits à contempler ses vérités éternelles. C'était sa grâce spéciale d'âme. Alors évidemment, il avait l'esprit de crainte, non pas la crainte seulement, la crainte, le tremblement, non. La grande révérence de Dieu. Dieu fait des choses éternelles. Voilà, fait des choses éternelles. Et c'est sûr que là où il y a plus d'amour, il y a forcément plus de crainte. Parce que l'amour craint de perdre son objet, même dans l'ordre humain, vous voyez. Quand il y a un grand amour, on craint de perdre l'objet humain qu'on a. À Dieu, a fortiori. Ouais. Donc, science, notamment, qu'est-ce qu'il fait? On dit que c'est lui, en, Bon, il y a plusieurs. Enfin, on dit le don de crainte ou le don de piété. Il fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'on dit, je peux perdre mon éternité pour une créature de trois fois rien. Quelque chose qui n'est rien du tout. Pour un instant, comme dit une fumée, comme dit le curé d'Ars, je peux perdre un Dieu infini, une béatitude infinie, une communion infinie, un bonheur infini, un amour infini, pour une chose de trois fois rien. Un plaisir bestial de trois minutes. Alors les saints, bon, évidemment, bon, ils ne s'arrêtaient pas qu'à ça, mais bon Dieu faisait... Vous savez, quand on raconte la vie de Sainte Thérèse d'Avila, le bon Dieu elle montrait la place qu'elle avait en enfer. Elle dit plusieurs années, ça faisait 10, 15, je ne sais pas combien d'années, quand j'y repense, mes cheveux se dressent sur ma tête. Elle n'est pas rasée. Enfin, bon. Ma coiffe, ma guimpe, le sang se glace dans mes veines. Elle a vu l'enfer. Bon. Donc, ciel ou enfer? Alors dites-vous que plus vous désirez le ciel, plus vous n'aurez pas envie d'aller en enfer. C'est clair. Le professeur Dogme nous disait, attention dans votre spiritualité, votre vie chrétienne, votre vie d'union à Dieu, n'est pas une marche à reculons de l'enfer. C'est une marche en avant vers le ciel et on fait attention à droite à gauche de ne pas tomber en enfer. D'accord? Péché grave, irrémissible. Ou la tâche au péché grave, pas le péché quand on est dans un tas de boue, là on est tombé, bon on se relève, mais de s'endormir dans l'état de péché, ou dans l'état de tiédeur trop fort. Regardons le ciel, désirons la Trinité, désirons Dieu, le désir de Dieu, on vous en parlera pendant certaines instructions. C'est une grande. Pourquoi est-ce que déjà un désir dans l'ordre physique, je dirais, l'appétit corporel est déjà si fort? Et vous ne pensez pas que les désirs de l'âme, c'est quelque chose de très fort? Le désir de Dieu. La faim de Dieu, la soif de Dieu. Ça, c'est important. Ça, c'est déterminant. Et quand il y a ces désirs-là, bah, c'est évident que vous n'avez pas envie d'aller en enfer. Personne. Il y en a, c'était un tel point même. Vous savez que normalement, Saint Pie X avait dit on doit une fois par an faire un sermon sur l'enfer. Au moins une fois par an. Alors, attention, malheureusement, je vais vous donner une petite indication que certains prêtres pourront vous dire. En tout cas, au couvent, c'est comme ça. Vous pouvez être sûr que le jour où nous aurons une prédication sur l'enfer, une prédication sur les modes féminines, vous pouvez être sûr qu'il y a dans la chapelle quelqu'un qui n'est pas tradit, qui est là. Il prêche ça une fois, il prêche ça toujours. Ouais, les tradits prêchent que l'enfer et les modes. Évidemment, il y en a un jour, bon, je ne sais pas comment il s'y est pris, bon, le jour de Noël, il a parlé un peu de l'enfer. Je ne pense pas qu'il a fait un sermon que sur l'enfer. Mais c'était déjà trop d'en parler. Et pourtant, Jésus est né pour qu'on n'aille pas en enfer. Ah, cette personne un peu moderniste, là, libérale, je ne sais pas quoi, oh, scandalisée parce qu'on avait parlé de l'enfer. Comme j'ai entendu là encore samedi, quelqu'un qui me dit, c'était un mariage, et était invité sa sœur et puis les enfants qui ne sont pas très pratiquants. Et le père a eu le malheur, l'abbé qui était là à la sortie du repas, du restaurant, du mariage, il a eu le malheur de parler du péché originel à son petit enfant de 8 ans. Elle était scandalisée, la dame. Non, mais elle est... Ça va pas, quoi. Madame, le péché originel, c'est la réalité dans laquelle vous êtes. Ah bon? Oui. J'ai un ami qui est poisson. Je lui ai parlé de l'eau la dernière fois, il ne savait pas ce que c'était. Bah oui, il est dedans. Je vais vous parler de l'air. Vous ne l'avez jamais vu, l'air. Vous êtes dedans, évidemment, vous ne le voyez pas. Voilà où on en est. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça tourne pas rond. Ben oui, ça tourne qu'on a un nez de taupe, quoi. Dans la terre, là, au ras de terre. Il n'y a rien de scandaleux de parler à un enfant du péché original, même s'il ne vient pas au caté. Bon, faut pas lui parler que de ça. Oh, il aurait dû lui parler de Jésus et de la Vierge Marie. Et vous lui en parlez, vous, de Jésus et de la Vierge Marie? Jamais, madame! Jamais! Alors, qu'est-ce que vous venez vous plaindre de péché originel? Si vous lui aviez parlé de Jésus et Marie avant, cet enfant, il aurait compris ce que c'était le péché originel. Il y a des gens... Si on ne se retenait pas. Bon, douceur. Douceur. Attente, initiative et attrait. Bon. Ah là 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 là. Le ciel, l'enfer. Bon, mais désir du ciel, on ne veut pas de l'enfer. Voilà, c'est tout simple. Bon, ceci dit, vous voyez qu'à Fatima... Elle n'y est pas allée avec des gants, elle n'a pas regardé s'ils avaient 8 ans. Hein. Je pense que si le prêtre il avait fait, alors là, parler de l'enfer, alors là, je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Déjà, le péché originel, ça passait pas bien, alors. Bon. Alors parlons un peu de l'enfer. Je le mets en sandwich pour que vous ne soyez pas, pas restés sur les dernières impressions. Je parle tout au début de l'enfer ou tout à la fin. Bon, j'en parle au milieu. Ça va passer, j'espère. Première chose qui doit nous effrayer de l'enfer, chers amis, pour les chrétiens, c'est pas le feu. On s'en fiche du feu. Bah, c'est important le feu. Souvent, dans les exercices Saint-Ignace, un abbé, il allumait une petite allumette, puis il approchait la flamette. Puis, ah, vous voyez, si vous faites ça au bout du doigt, quand vous serez feu partout. Oh, bah oui, bon. Bon, c'est pas d'abord le feu. Mes amis, c'est pas d'abord le feu. Bon, il y a le ver rongeur de la conscience, d'accord. Non, pour une âme qui aime Dieu, être séparée de son Dieu pour toujours. Voilà ce qui doit nous toucher, chers amis. Être séparé de son Dieu pour toujours. Vous, les âmes qui cherchez par ces retraites à aimer Dieu, à fuir le péché habituel, mortel ou véniel, délibéré, vous rendez compte quand vous avez même peiné le bon Dieu, comme ça vous touche le cœur. Imaginez que cette séparation doive durer pour toujours, quand vous êtes dans une désolation. Et qui n'en a pas des désolations? Ça fait partie du programme. Hein? Les nuits, les jours, la consolation, la désolation. Quand vous êtes dans une désolation, une sécheresse, une épreuve, une tristesse, que vous sentez le bon Dieu qui est loin, comme c'est lourd déjà à porter. Et s'il fallait qu'il y ait ça pour toujours. Voilà votre vraie peine pour l'enfer, c'est ça la vraie peine. C'est pas le reste. Alors bien sûr, nous sommes des hommes, alors évidemment, ou des êtres humains. Évidemment, le feu, le ver rongeur, c'est pas rigolo. Et puis quand la conscience. Vous savez, les gens, ils ont une conscience. Hein. Ils ont beau pas être cathos, etc., quand vous passez une fois ou l'autre, là, on était passé près d'une voisine, là, avec le père Antoine, on parlait sur le chemin de... Bon. Elle a senti qu'elle n'était pas correcte, la dame. Ben, je peux vous dire, puis elle est rentrée vite, hein. Les moines, bon, ils sont corrects, enfin, on essaie. Bon. Bon. Pas catholique. Bon, je suis peut-être pas très décente. T'es petite et je rentre dans la maison. Il y a une conscience, on a bien vu que c'était à cause de ça. Bon, indépendamment de ce qu'on pouvait peut-être lui parler, lui dire, on va pas faire d'inflexion, mais il y a une conscience, il y a une conscience, il y a une conscience. Alors que la conscience n'est pas apaisée quand il y a le trouble, le remords. Ouais. Imaginez qu'il y ait tout le temps ça, quand il y en a un trouble de conscience. Bon, ce que connaissent le mieux, évidemment, c'est ceux qui ont... Bon, ce malheur, cette infirmité qui peut être le scrupule, par exemple, comme ça torture l'âme, comme ça vous... Oh. Vous imaginez, les damnés sont dans un scrupule éternel. Je pouvais gagner le ciel, je l'ai perdu pour trois fois rien. Alors, séparation de Dieu. Les maux du corps, d'accord. La compagnie des damnés et des anges. Si vous voulez une bonne description, hein. Bon, il y a celle de Fatima, je vous l'ai amenée, mais je n'ai pas prise. Elle est très bien, au 13 juillet ou 13 juin, 13 juillet, je crois. Vous pouvez la relire. Hein. Les charbons, bon, les âmes, bon. Mais celle qui est la plus impressionnante, à ne pas lire après 8 heures du soir, même pas après 6 heures du soir, le matin quand vous êtes en pleine forme, c'est celle de Sainte Françoise Romaine. Alors là, à lire quand vous êtes bien bien unis au bon Dieu. Bon, c'est pas pour tous, pas pour tous. Si toi, c'est tempérament un peu... Bon, mais c'est utile. Elle explique cette... Donc, c'est, bon, comme c'est noir, et puis ce démon, ce qu'il est, et puis ces trois principaux démons qui sont en fait, elle explique ça, c'est... Oh, bon. Pas pour tous, ceux qui n'aiment pas les films d'horreur. Voyez, les gens... Encore un truc du monde, ça. Encore un truc du monde. Ah, parlez pas de l'enfer, vous avez... Ouais, mais vos gamins, vous allez les emmener voir des films d'horreur. Alors, on va pas leur parler des vraies horreurs, mais on va leur montrer. Hein. Je vois encore, il y a 12 ou 15 ans, une petite, à une école catholique. Bon, la maman, pas très... Fut. L'enfant de 6-7 ans, je vais vous donner le titre, vous allez tout de suite comprendre. Massacre à la tronçonneuse. Charmant. Ah, mon petit, massacre à la tronçonneuse. Mais parlez pas de l'enfer. Vous allez lui faire peur à mon petit. Mais il peut voir massacre à la tronçonneuse. La logique du monde. La logique du monde. Bon, alors l'enfer, séparation de Dieu, proximité des damnés, qui s'envoient les uns aux autres, ceux qui sont évidemment précipités dans l'enfer. des cris perpétuels. Bon, si vous voulez aiguiser vos sens, vous prenez le numéro des exercices Saint-Ignace, exercice des yeux, exercice des oreilles, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent dans son corps. Il y en a pour les cinq sens, hein, externe, interne. Il y en a pour l'imagination, il y en a pour la mémoire du péché qui nous a emmenés en enfer. Alors qu'au ciel, toutes nos facultés sont béatifiées, jubilantes de Dieu en enfer, tout est comblé de punition, de séparation. L'intelligence voit d'une façon aiguë le mal, l'éloignement de Dieu, la proximité des anges, la proximité des damnés, le péché comme il a été commis. Voilà, toutes les facultés sont surabondantes du mal, plus les vengeances des démons. Et évidemment, c'est encore bien pire pour nous prêtres. Ah, t'as fait du bien quand t'étais sur la terre. Maintenant, je t'ai, je me venge de tout le bien que t'as fait. Ça, ça ne nous réjouit pas. On fait tout petit, hein. Te réjouis pas trop du bien que tu fais, mon ami, par tes paroles, tes sacrements, que sais-je. Sainte Françoise Romaine ajoute, je vais pas être trop long, parce que sur l'enfer, je vais passer à autre chose, mais bon. Elle ajoute, au jour de notre naissance, pas au jour du baptême, de notre naissance, Dieu a dépêché dans sa grande miséricorde un bon ange. Aimons notre ange gardien. Padre Pio l'appelle le jumeau de l'âme. Quel beau titre qui fait réfléchir profondément. Un jumeau spirituel, qu'est-ce que ça peut bien être? Et si c'est un jumeau, quelle intimité nous devons avoir avec lui? Les affinités d'un esprit mortel avec une âme mortelle. Ça doit être beau, que c'est beau. Donc Dieu nous dépêche un bon ange. Lucifer, Satan, qui est le singe de Dieu, nous dépêche un mauvais ange, un ange gardien mauvais qui connaît nos fissures. Pour le savoir, ce n'est pas des trucs qu'on raconte aux petits-enfants. T'as écouté ton bon ange et puis écoute pas le mauvais ange. C'est vrai, nous avons un mauvais ange à côté de nous qui excite en nous nos faiblesses. C'est comme ça. Alors soyons pas, bon, attention, hein. On a le nous, il y a plus de monde de l'autre côté, rassurez-vous. Il y a le bon ange, nos saints patrons, la Sainte Vierge, toute la Trinité combat pour nous. Pour autant que notre bonne volonté... Mais il y a un mauvais ange, il faut le savoir. Puis alors tout est écrit, là. On voit ça souvent, il est symbolisé le jugement particulier, là, l'ange qui vient... Allez, fais tout ça. Et puis l'ange gardien, oui, il a fait ça. Pouf, ça tombe, il faut... Bon, bon ange, on dit qu'au jugement particulier, il est là. Et il dit ce que nous avons fait de bien. Et le mauvais ange... Il est là aussi pour montrer la liste noire. Bon, c'est pas reluisant. La boîte noire. Il faut toujours avoir une boîte noire sur nous, vous savez ça? Hein? Les avions, la boîte noire, ce qu'on a fait, là, le trajet. Nous, petite boîte noire, comme les poches des capucins. Il y a des poches partout. Ah, les poches, hein? Boîte noire. Là, c'est pas une boîte, hein? C'est un petit livre. Et dans la boîte noire, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est très utile, qui est un instrument de ce que nous a expliqué Monseigneur Lefebvre à midi. Il dit l'humilité, et pour nourrir l'humilité, oui, nous sommes des pécheurs, et qui pouvons toujours pécher, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, toujours. Boîte noire, très utile quand il y a les tentations d'orgueil. Ah ouais, j'ai fait ça. Ouais, j'ai prêché une super retraite aux dames. Évidemment, des mots. Ouais. Mon ami, ta paresse, comment t'as préparé la retraite? Et dans quelles intentions? Vraiment pour le bon Dieu? Ouais. À voir, regardons-y de plus près. Et tes péchés du passé? Et qu'est-ce que t'as fait, là, il y a 10 ou 15 ans? Bon... Ouais, petit soulier, petite sandale. Alors, quand vous avez une tentation d'orgueil, 2-3 péchés bien saignants, hein, pas toujours les mêmes, bien saignants, ceux que vous n'irez pas exposer à la porte sur votre boîte aux lettres. Et quand ça arrive, hop, hein, l'orgueil, ouais, moi je suis meilleur que les autres. Genre, moi j'aurais jamais fait ça, jamais. Ouais, jamais, mon œil, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes intentions, la même faiblesse, On ne sait pas ce qu'on peut produire. Toujours, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. On peut tomber dans les mêmes et pires que les autres. On n'a pas toujours cette conscience-là, malheureusement. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, on va voir ça. Très utile. Petite boîte noire, très utile. Voilà. Et changer de temps en temps, parce qu'on s'use, évidemment, hein, et la routine. Ouais, j'ai fait ça, mais il y a beaucoup de temps. Hein. Bah ouais, le temps, ça change rien. Tu l'as fait, mon ami. Tu peux encore le refaire. Alors, méfie-toi de toi. Bon. Autant que, pas plus que. Mais c'est utile. Avec les litanies de l'humilité. Utile. Nos désirs et nos craintes. Où est-ce qu'elles sont? Le ciel, l'enfer, le purgatoire. On va terminer sur le ciel. Bon. Bon. C'est bon. Il faut faire comme ça. Enfin, il me semble que c'est psychologiquement bon. Bon. Même si au milieu, là, quelque chose d'un peu poivré, là, vous aimez peut-être le poivre, moi pas. Bon. Bon. Bien. L'enfer. Notez bien aussi, très important. Souvent, nous pensons à l'enfer de façon trop égoïste. Je ne dis pas qu'il est égoïste. Évidemment, c'est nous qui ne devons pas aller en enfer, d'accord. Mais si nous avions la même pensée que le bon Dieu, regardez pour les enfants de Fatima. Elle n'aura pas dit, voilà ce que je vous évite. Les pécheurs vont en enfer. Très important, ça. Beaucoup d'âmes en est parce que personne ne prie pour eux. Vous n'avez pas envie d'aller en enfer? Priez pour qu'il y ait beaucoup d'âmes qui n'aillent pas en enfer. C'est le meilleur moyen pour vous de ne pas y aller. Comme vous aurez des plein de gens à sauver des âmes, le bon Dieu, il ne vous enverra pas, il ne vous laissera pas tomber. Il a fait tant de bien, il a sauvé tant de pécheurs par ses prières, ses sacrifices, ses offrandes. Voilà un bon moyen, excellent moyen. Et c'est le même d'ailleurs pour tout le reste. Bonne mort. Obtenez des bonnes morts, ayez la dévotion aux agonisants, aidez les âmes à recevoir les sacrements. Le bon Dieu vous aidera, il sera là parce que vous, vous aurez fait ça dans votre vie. Voilà. Moyen pratique. Aider à la bonne mort des gens, les malades. Voilà. Saint-Thérèse, je dis, on ne sait pas les angoisses qu'il y a au moment de la mort, même chez les saints. Saint-Thérèse, dans ses souffrances, il dit, il faut qu'on retire des médicaments auprès de moi parce qu'il y a des moments, bah, elle voulait passer de l'autre côté, hein, dans des moments de très grande douleur. Aidons les mourants, les agonisants, prions pour eux. 200 000 morts par jour. 200 000 morts. Chut, passe à l'éternité. Chut. 200 000 à peu près. Eh bien, pour l'enfer, pareil. À telle enseigne qu'une fois, nous avons commencé une retraite aux Clarisses par une méditation sur l'enfer. Ah oui, pourquoi? Parce que chez des Clarisses, ce n'est pas pour elles. On pense que, bon, quoique, hein, peut y en avoir. Bon, pas trop, j'espère. Mais une grande envie que les âmes n'aillent pas là. Vous avez envie de voir votre époux ou vos enfants en enfer? Je ne pense pas. Et même votre voisin de droite ou de gauche, là, même cet abruti de communiste qui est à côté, là. Je ne veux pas le voir griller, ce pauvre type. Quand même. Et même nos vilains ennemis, les francs-maçons, les juifs, le je sais pas quoi, ce qu'on va nous trouver, on veut pas qu'ils aillent en enfer, ces gens-là. Qui voudrait plonger une âme en enfer ou la laisser tomber? Personne. Et ne réfléchissons pas à ça, hein, nos ennemis, nos vilains ennemis, là. Voilà. Les comploteurs contre Jésus-Christ, les juifs, les francs-maçons. Personne veut qu'ils y aillent, personne. Alors nous, c'est pareil, prions pour les pécheurs. Et ils n'iront pas en enfer parce qu'on a prié pour les pécheurs. Meilleur moyen de sauver les âmes, de sauver notre âme, sauver d'autres âmes. Voilà. Les agonisants, les pécheurs. Nous purifier nous-mêmes de nos péchés, avoir une vraie vie intérieure pour ne pas aller au purgatoire. Vous savez que la plus petite douleur du purgatoire, c'est la plus petite douleur. Elle dépasse toutes les douleurs les plus terribles de la terre. Bon, ça, c'est la douleur. Et en fait, il paraît, nous allons au purgatoire parce que nous avons, beaucoup de saints nous le disent, nous allons au purgatoire parce que nous n'avons pas un assez grand désir du ciel. Réfléchissons à ça. Trop de désirs de la terre qui obstruent les capacités de désirer le ciel, pas assez de désirs du ciel. Demandons. Et si nous n'avons pas ce désir, et ça peut arriver, et tous on en est là, plus ou moins, enfin bon, peut-être des âmes, fuite. Bon. Mon Dieu, donnez-moi le désir du désir. Saint Alphonse fait prier comme ça, le père de Surmont et d'autres saints. Donnez-moi le désir du désir. Je ne l'ai pas. Peut-être que je ne l'ai pas. Je n'ai aucun attrait pour ça. Donnez-moi le désir du désir. Désir du désir. Voilà. Ça, c'est la belle prière chrétienne, pleine de confiance. Voilà. Je suis un pauvre type. J'ai rien, je peux rien, je sais rien, mais vous, vous êtes tout, vous savez tout, vous pouvez tout et vous nous aimez. Ah, l'âme se dilate. Voilà. Ça, c'est le mouvement chrétien. On n'a rien, on peut rien, on sait rien. Vraiment, c'est vrai. Plus on en a confiance, mieux c'est. Mais attention, comme il dit à Saint-Thérèse d'Avila, oui, dis-toi ça, mais pense à l'autre plateau de la balance. Je suis tout, je peux tout, j'ai tout, je t'aime. Je t'attire. Et il faut les deux. que l'âme soit dans l'équilibre, en hauteur. Alors, n'allons pas au purgatoire. Comment vous ne voulez pas y aller? D'abord, bien sûr, vous purifiez, surtout du péché véniel délibéré, la tâche habituelle, pas seulement le gros péché mortel, là, bien saignant, bien... Non, la tâche aussi au péché véniel délibéré. Cette espèce de tiédeur, médiocrité, bon, qui est pas croire que c'est toujours volontaire. Ça peut venir des fois de certaines dispositions, de permission, disposition du bon Dieu. Du moment qu'on est conscient, c'est pas toujours les... Il faut distinguer, jusque dans la tâche au péché véniel délibéré, c'est pas toujours volontaire, il faut le savoir. Et puis on a des passes dans l'âme où, effectivement, on sent cette médiocrité, cette tiédeur, cette froideur. Même les saints l'ont connu, pourquoi on ne connaîtrait pas nous, pauvres chrétiens? Vous savez, purgatoire, Monseigneur de Ségur explique qu'il y aurait trois grandes parties dans le purgatoire. Le grand purgatoire, là, ceux qui ont été rattrapés, in extremis, là, par un cheveu, abattu, là, je ne sais pas quoi. Le curé d'Ars, il dit, un pater, un ave, pour certains, ça suffit pour les retirer. Rendez-vous de compte, hein, dans le haut de chapelet, là. Un pater, un ave, pour certains, hop, au-dessus du vide, là. Retirer, dans les élus. Ah, peut-être au purgatoire pour un petit temps. Vous savez, Amalia, là, jusqu'à la fin du monde, hein, la petite Amalia, là, sa mère a fait dire beaucoup de mèches, je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est Lucie qui demandait qu'est-ce qu'il est devenu Amalia, qui était morte à 16 ans. Une histoire pas très nette. Bon, où est-ce qu'elle est? Au purgatoire jusqu'à la fin du monde. La maman qui a appris ça a fait dire des mèches, je ne sais pas ce qu'il en est. Bon, c'est peut-être conditionnel, enfin, peu importe en tout cas. Purgatoire, essentiellement, il y a cette peine du dent temporelle. Je dis la peine de l'enfer, c'est la peine du dent, séparation de Dieu. Alors là, elle est vécue comme momentanée. C'est momentanément qu'on est séparé de Dieu. Et puis, bon, il y a donc, on est puni par où l'on a péché. Notamment, les médisants sont souvent représentés avec un couteau dans la langue. Ça ne donne pas envie de trop d'avoir la langue trempée dans l'acide. Hein? Bon, ça peut nous freiner un petit peu sur là.